Itinéraire de femme. Anne André. Une émission proposée par Radio Shalom Bourgogne.
Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Shalom. Vous êtes dans l'émission Itinéraire de femme, consacrée à la présentation du parcours singulier de certaines d'entre elles. Notre émission d'aujourd'hui nous amène sur les pas d'une femme politicienne au Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike. Première femme de l'histoire démocratiquement élue à la tête d'un gouvernement, Sirimavo Bandaranaike fut à la fois une réformatrice et une femme d'influence tout au long d'une période d'instabilité politique et de confrontation. Ses trois mandats de Premier ministre soulevèrent la controverse, mais Sirimavo joua un rôle déterminant dans la redéfinition du rôle du Sri Lanka au sortir de la colonisation britannique. Sirimavo vit le jour en 1916, à l'époque où Ceylan, ancien nom du Sri Lanka, était encore sous domination britannique. Elle étudia dans un couvent de Colombo, mais elle fut encouragée à garder sa foi bouddhique et à parler le singhalais autant que l'anglais, ce qui l'aida à entretenir un lien culturel avec son peuple. Sous domination britannique, nombre de singhalais issus de l'élite, comme elle, avaient cédé à l'anglicisation et étaient perçus comme distants par leurs compatriotes. Ses études achevées, Sirimavo se fit connaître par ses initiatives en faveur du bien-être social, comme la distribution de vivres à ceux qui luttaient contre la pauvreté dans les campagnes. En 1940, elle épousa Solomon W.D. Bandaranaike, fils d'une famille riche et engagée en politique. En 1956, ce dernier devint Premier ministre, alors qu'il était à la tête du Parti de la Liberté du Sri Lanka, le SLFP. En 1959, son mari fut assassiné à son domicile et Sirimavo Bandaranaike sollicité pour prendre sa succession à la tête du parti. Bien qu'encore en deuil, elle accepta. En mars 1960, à l'issue des élections, son parti vainqueur, elle devint ainsi la première femme au monde élue Premier ministre. Sirimavo Bandaranaike poursuivit la voie de la politique socialiste et nationaliste initiée par son mari et nationalisa quelques grandes sociétés. Son soutien à la langue et à la culture singhalaise participa à marginaliser la minorité tamoule qui vivait aussi à Ceylan. Les tamouls manifestèrent leur mécontentement d'être exclus de la vie publique, en particulier après un accord de rapatriement passé avec l'Inde, mais qui finit par capoter, laissant de nombreux tamouls apatrides. En 1965, au cœur de tensions politiques, Sirimavo Bandaranaike perdit les élections avant de revenir sur le devant de la scène en 1970 pour briguer un second mandat. Sous ce nouveau gouvernement basé sur une coalition socialiste, le pays adopta une nouvelle constitution et en 1979, Ceylan abandonna son statut de domination pour devenir la République du Sri Lanka. Des mesures économiques s'employèrent à redistribuer les richesses aux plus pauvres, mais la politique adoptée finit par conduire à la stagnation sur le plan économique et Sirimavo Bandaranaike dut céder son poste de première ministre en 1977. En 1980, suite à des accusations de corruption et d'abus de pouvoir, Sirimavo fut déchu de ses droits politiques avant sa réhabilitation en 1986 à l'initiative du président Jayawardhan. Alors que son fils et sa fille s'étaient depuis lancés dans une carrière politique, sa fille Chandrika fut élue première ministre à la tête du parti de ses parents, le Parti de la Liberté du Sri Lanka. En août 1994, Chandrika accéda à la présidence de la République et nomma sa mère première ministre. Sirimavo Bandaranaike travailla avec sa fille au cours des dernières années de sa vie, mais celle se retira de la vie politique en 2000, affaiblie par la maladie. Elle décéda d'une crise cardiaque peu après. Tout au long d'une carrière controversée, Sirimavo Bandaranaike initia l'émergence de la nouvelle République du Sri Lanka et la sortie de l'ombre du colonialisme, et ce malgré son manque de perspicacité dans les négociations menées avec les minorités au sein de son pays. Soucieuse de justice, elle se révéla pourtant parfois aveugle là où la justice était peut-être la plus malmenée. Dans la continuité du parcours de l'ancienne première ministre sri-lankaise, nous allons nous intéresser également au parcours de Benazir Bhutto, qui fut première ministre du Pakistan. Née au sein d'une famille politiquement influente en 1953, Benazir Bhutto était prédestinée au pouvoir et à ses drames. Elle devint la première femme à prendre la tête d'un pays à majorité musulmane et ainsi à rompre avec la tradition. Sa force de caractère et ses efforts pour initier un changement dans son propre pays restent un exemple sans précédent d'influence et de charisme. Elle inspira de nombreuses femmes, dont Malala Yousafzai, qui fit son apparition aux Nations Unies vêtue d'un châle lui ayant appartenu. Malgré de nombreux revers, sa détermination ne faiblit jamais. Elle resta jusqu'à la fin une grande dirigeante. Son père, Zulfikar Ali Bhutto, avait été élu Premier ministre en 1973 comme leader du Parti du peuple pakistanais, le PPP, un parti de centre-gauche défendant une des plus grandes équités et une politique de nationalisation. À cette époque, Benazir étudiait d'abord à Harvard, puis à Oxford, où elle fut élue présidente de l'Oxford Union Society, une association qui organisait des débats. Elle acheva ses études en 1976, puis rentra au Pakistan où elle travailla aux côtés de son père comme diplomate au ministre des Affaires étrangères. En 1977, après l'arrestation de son père, renversée par un coup d'état militaire fomenté par le général Zia-ul-Haq, la vie de Benazir plongea dans le chaos. Elle resta au Pakistan aux côtés de sa mère Nusrat pour préparer la défense de son père, mais toutes deux furent arrêtées à leur tour. En 1978, Zulfikar fut condamné à mort et exécuté un an plus tard. Benazir et sa mère furent alors désignées coprésidentes du Parti du peuple pakistanais. Plus tard, Benazir fonda le mouvement pour la restauration de la démocratie et appela à la fin de la loi martiale, au rétablissement de la constitution de 1973, à des élections parlementaires et au transfert du pouvoir politique alors aux mains des militaires à celles de représentants démocratiquement élus. En 1981, le général Zia-ul-Haq fit procéder à l'arrestation et à l'emprisonnement de Benazir et de sa mère à la suite d'accusations portées à l'encontre des frères de Benazir, soupçonnés du détournement d'un avion pour tenter d'évincer le gouvernement. Enfin libérée, elle partit pour l'Angleterre en 1984, où elle entama le début d'un exil volontaire. En 1985, la loi martiale fut abrogée et Benazir rentra au Pakistan. Elle ne tarda pas à épouser Asif Ali Zardari, dans le cadre d'un mariage arrangé organisé par sa mère. Cette union permettait de s'allier tous ceux qui étaient restés fidèles au parti de son père, et en 1988, à l'issue des élections, le Parti du peuple pakistanais fut effectivement le parti à recueillir le plus grand nombre de voix. Benazir Bhutto devint première ministre sous le gouvernement du président Ghulam Ishaq Khan. Elle fut la quatrième femme de l'histoire à accéder à ce poste, et la première dans un pays à majorité musulmane. Sa position restait néanmoins précaire et les mesures de privatisation qu'elle avait préconisées étaient très éloignées de la politique d'inspiration socialiste de son père. Par ailleurs, de nombreux musulmans conservateurs n'acceptaient pas de voir une femme au pouvoir et le Pakistan se retrouvait en proie à des luttes intestines opposant différents groupes régionaux et religieux. En 1990, le président Khan limogea Benazir Bhutto, officiellement pour corruption et abus de pouvoir. Son opposant à la tête du Parti du peuple pakistanais, Nawaz Sharif, lui succéda avant d'être à son tour démis de ses fonctions par le président, lui-même forcé à la démission en 1993. Aux élections législatives suivantes, Benazir Bhutto fut à nouveau élu Premier ministre sous la présidence de Farouk Leghari. En tant que Premier ministre, elle poursuivit une politique de privatisation visant à infléchir la courbe du chômage et à lutter contre la pauvreté. Elle eut toutefois plus de mal à imposer les mesures promises lors de sa campagne en matière d'égalité homme-femme. En 1996, une nouvelle fois accusée de corruption, elle décida de s'exiler à Dubaï, d'où elle continua à diriger le Parti du peuple pakistanais. Des années plus tard, les charges pesant contre Benazir Bhutto furent levées par le président Pervez Musharraf. Benazir rentra au Pakistan en 2007, où elle reçut un accueil triomphal de la part de certains, mais l'autre lui réservait un sort tragique. Après avoir échappé à une tentative d'assassinat en octobre, à l'issue d'un rassemblement politique de son parti, organisé le 27 décembre 2007, elle succomba à un attentat suicide, probablement perpétré par l'organisation islamiste Al-Qaïda.
Itinéraire de femme. Anne André. Une émission proposée par Radio Shalom Bourgogne.